Il y a une ambivalence profonde dans le monde politique, parce qu'on veut absolument bannir le communautarisme et en même temps on le construit. Quand on s'adresse aux musulmans, quand on fait une instance de dialogue avec l'islam de France, on construit la communauté, une communauté qui n'existe pas en fait, une communauté virtuelle, une communauté idéale dans laquelle on voudrait qu'il n'y ait que les bons musulmans et les valoriser, les mettre en avant. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet. Lors de l'installation de l'instance de dialogue avec l'islam de France numéro 2 par Bernard Cazeneuve, qui traitait spécifiquement de la radicalisation, le directeur du bureau central des cultes m'avait proposé d'être rapporteur d'un des ateliers. Et je lui ai dit, je veux bien rapporter, mais moi-même je ne suis pas musulman, je suis baptisé catholique, donc je ne sais pas si ça va être bien perçu. Et il m'a dit, pas de souci, venez, vous allez rapporter l'atelier, il n'y a aucun problème. Bon, donc déjà vous voyez tous les problèmes d'assignation identitaire avec le nom, tous les fantasmes qui peut y avoir autour de ça. Et donc je ne recevais pas l'invitation. Et donc une semaine avant la manifestation, je m'enquiers de savoir ce qui se passe. Et en fait, j'avais été désinvité. Ils avaient préféré mettre un musulman pour rapporter l'atelier. Donc c'est quand même assez surréaliste. Alors j'ai pas fait d'histoire. Hein. Je pense qu'il y a pas de journaliste dans la salle, donc ça ne sortira pas. Mais le si vous voulez, dans la conception des gens qui nous gouvernent à l'heure actuelle, on est dans une conception complètement communautarisée de la politique. Et ça, c'est gravissime parce qu'on ne fait que renforcer les problèmes. Et pour tout vous dire, du coup, j'ai été quand même réinvité à l'instance de dialogue, non pas sur l'atelier, mais à participer en tant qu'expert. Il n'est rien sorti de ce maelstrom où il y avait 150 personnes, qui avaient 150 idées différentes, où il n'y avait aucune méthode. Donc si vous voulez, on enferme les gens dans des boîtes, on pense que la communauté musulmane, elle n'existe pas. Il y a des individus qui ont une pratique de l'islam très différente, qui peut être malheureusement parfois littéraliste, hein, ou qui peut être très libérale. On a à Bordeaux un imam qui s'appelle Tariq Oubou, qui est très libéral. Et donc on ne peut pas enfermer les musulmans dans une communauté, dans une représentation. Ce sont des citoyens à part entière, et donc il faut les considérer comme tels. Sur le dialogue interreligieux, juste un petit mot. Le dialogue interreligieux à Bordeaux n'a jamais eu comme vocation de prévenir directement la radicalisation. Dans la radicalisation, il y a plusieurs niveaux. Il y a la prévention primaire, qui est le vivre ensemble. Et effectivement, quand on la prévention primaire, elle s'adresse à la polarisation de la société, c'est-à-dire aux antagonismes. Et donc, avec le dialogue interreligieux, on ne lutte pas contre la radicalisation de jeunes qui sont déjà radicalisés, mais on diminue le niveau de polarisation de la société, et donc on crée un environnement défavorable à la radicalisation. Donc, on est sur deux champs différents. Et deux petites remarques encore. Laïcité ou dialogue interreligieux, bien évidemment, ce n'est pas la même chose, mais à mon sens, la laïcité permet le dialogue interreligieux. Il n'y a pas d'opposition, hein, mais bien que la laïcité soit un principe qui soit bien supérieur, comme on l'a dit. Et pour réagir, dernier mot sur le féminisme, nous avons organisé une conférence pour le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, avec différentes intervenantes. Et nous avons eu une sociologue qui est venue nous expliquer ce que c'était que le féminisme musulman. Moi-même, au début, quand j'ai vu ça, j'étais un peu interrogateur. Et en fait, il y a tout un courant de musulmanes qui s'appuie sur le Coran pour dire que l'égalité doit se faire entre les hommes et les femmes. Et le Coran est un texte beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et donc, ces femmes sont pour certaines voilées. Vous avez des féministes qui sont voilées. Et donc, il faut se méfier, et vous l'avez dit, je pense, de la manière dont on peut appréhender les choses à notre place. Il faut aussi pouvoir écouter et se mettre à la place des femmes qui portent le voile, parce que la manière dont elles le vivent, c'est parfois aussi par émancipation du milieu familial ou d'un certain nombre de choses. Donc c'est très compliqué, on ne peut pas globaliser. Il y a un asservissement dans certains cas, très clairement, il y a une volonté dominatrice de l'homme sur la femme, dans un contexte de société patriarcale. Hein, qui, d'ailleurs, le Coran, alors j'ai appris lors de cette conférence que le Coran était un des textes qui permettait de faire avancer les droits des femmes à une époque où les femmes avaient un statut proche de l'objet quand même. Hein. On échangeait les femmes comme des chameaux. Et le Coran est descendu et a donné des droits aux femmes. Alors, se référer aujourd'hui à cette époque de l'histoire, du coup, c'est complètement anachronique parce que le contexte est pas le même. Mais dans le fondement même de l'islam, de ce que j'ai compris des travaux théologiques et sociologiques autour de ça, il y a quand même une avancée historiquement sur les questions d'égalité femmes-hommes grâce au Coran. Hein. spécialiste.
Si tu veux réagir, ce sera dans le micro.
Pardon, merci. Juste quelques secondes. Et d'ailleurs, évidemment, ça fait 1632, donc ça fait 1400 ans. Donc ça, il y a effectivement une marge. Mais il faut rappeler, alors évidemment, ce n'est pas à l'État de le faire, mais que le voile n'est pas une prescription coranique non plus. Le voile a préexisté. Hein. C'est une coutume anti-islamique, puisque la femme libre était une femme voilée par rapport à la prostituée qui montrait ses appâts. Donc, dans une société machiste de toute façon à l'époque, et que la prescription coranique, c'est lorsque Mohamed arrive à Médine et va s'installer, et que ses épouses vont être harcelées par la communauté qui se constitue autour de lui. Et il est simplement dit qu'il faut rabattre, je ne parle pas arabe, mais je me suis renseigné, qu'il faut rabattre sur la poitrine l'espèce de djellaba qui était là. Donc, ce qui est important, c'est qu'en effet, c'est un signe religieux et vécu comme tel. Et ça, je suis d'accord avec vous, il faut l'entendre. Si l'on exclut d'emblée, au nom de notre conception, les femmes qui le portent, nous sommes mal partis pour entamer un dialogue. Mais en même temps, le symbole et l'évolution de ce symbole, qui peut aller jusqu'au voilement complet, hein, Shams, par exemple, pour Tchador, c'est l'ombre. Donc, la femme est une ombre dans l'espace public. Donc nous pouvons faire comprendre aussi qu'il y a une sémantique sous-jacente, un sens caché, enfin pour nous des choses, un sens caché à ce symbole qui effectivement n'est pas toujours vécu comme un symbole antiféministe, mais comme un simple symbole religieux. Mais ça, c'est en effet affaire de dialogue entre les uns et les autres.